Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Qui a tué Lucie? Comment est mort Balzac? Est-ce que Adolf Hitler est vraiment mort dans son bunker? Vous allez me dire que cette introduction vous paraît bizarre. Et pourtant, nous allons passer de l'histoire dans le mystère de ces morts. Nous allons remonter jusque au Néandertal, au paléontologique, c'est pas des mots faciles à dire, avec une science qui nous transporte, dirais-je, dans l'histoire du passé de ces morts célèbres, qui nous en apprend mieux également sur notre histoire à nous. On va déceler cette avancée dans la biologie, savoir comprendre aussi pourquoi, peut-être aussi au niveau de la médecine, peut-être cela a-t-il une avancée réelle. En tout cas, c'est un livre passionnant que je vous propose aujourd'hui, Autopsie des morts célèbres, avec un non moins invité, interlocuteur et l'auteur de ce livre. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour votre livre Autopsie des morts célèbres aux éditions Talendier. Je vais pas y arriver ce matin, Talendier. Déjà on va un petit peu parler de vous. Vous êtes docteur en médecine, doctoresse lettres. Vous travaillez au musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac. Voilà, quelles sont donc vos attributions dans tout cela?
Eh bien, je suis médecin légiste et archéo-anthropologue, et le but est d'utiliser ces deux techniques pour travailler à la fois sur les restes humains anciens et aussi sur les objets de musée qui sont assez souvent confectionnés avec des croûtes de matière sacrificielle, etc. Et donc les sciences fondamentales sont très utiles pour aborder ces objets anciens ou ces personnes anciennes. Mmh. Donc dans le musée, je suis directeur de la recherche et de l'enseignement.
D'accord. Alors, dans ce livre également apparaît un autre auteur, David Alliot, également.
Oui. Hein, tout à fait, qui est un ami et collègue.
Voilà.
Et nous avons écrit à quatre mains, comme on dit.
À quatre mains. Alors lui, il est spécialisé pour Louis-Ferdinand Céline, entre autres. C'est un spécialiste.
Oui, exactement. Et de Aimé Césaire aussi.
Et de Aimé Césaire, qui est un auteur, un poète et auteur martiniquais, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors, votre livre est construit, je dirais, comme une recherche, comme une enquête policière, pourrais-je dire. Alors, première question, quel est l'intérêt de savoir comment est mort Lucie, si Hitler est mort dans son bunker, comment est mort Balzac, qui a tué, de quelle façon sont morts ces gens célèbres et lointains, parce que il y a également Ramsès, il y a tout ce qui est au niveau de la momification. Quel est l'intérêt aujourd'hui?
L'intérêt, c'est de mieux connaître l'état de santé de ces populations du passé, savoir comment apparaissent des maladies, comment elles vivent, elles interagissent éventuellement avec d'autres maladies, et ensuite comment elles disparaissent. C'est vraiment quelque chose qui est important à la fois pour connaître des faits historiques, mais aussi pour mieux connaître le développement des maladies pour le futur. Donc ça intéresse autant, normalement, les historiens, les archéologues, les historiens de l'art aussi, et puis les biologistes, les biochimistes, pour savoir comment les maladies actuelles vont évoluer dans le futur. Donc on est vraiment à la confluence entre les sciences fondamentales et les sciences humaines.
Alors, vous dites et vous précisez, n'en déplaise à certains, nous sommes dans un temps de réchauffement climatique. De cette façon, les glaces fondent et cela fait apparaître de nouveaux éléments et la Terre, dirais-je, rejette de nouveaux restes humains qui sont de véritables découvertes également.
Oui, tous ces bactéries, virus, parasites qui étaient trappés depuis des années, depuis des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'années, malheureusement, n'étaient qu'endormis. Et on se rend compte avec le dégel du réchauffement climatique, le dégel du permafrost, que ce soit en Sibérie, que ce soit au Canada ou que ce soit encore ailleurs dans le monde, que ces agents infectieux endormis peuvent se réveiller et être potentiellement contaminants pour nous. Donc il y a un réel danger pour ça, sans être pour autant alarmiste, mais c'est simplement, il faut se rendre compte qu'aller comme touriste, comme voyageur dans ces régions n'est peut-être pas anodin, n'est peut-être pas forcément une partie de plaisir à long terme, et qu'on peut ramener des bactéries, des virus, des parasites dans ses chaussures ou dans ses poumons. Et tout ceci peut se développer et être à l'origine de maladies assez, assez catastrophiques. C'est arrivé il y a quelques années avec une épidémie de charbon, c'est l'anthrax, une maladie bactérienne assez, assez sévère, qui était dans les carcasses de rennes depuis une centaine d'années à peu près, et avec le dégel, eh bien, de nouveaux rennes se sont contaminés et sont morts, ainsi que deux enfants en bas âge. Donc ça n'est pas anodin.
Ça n'est pas anodin. Donc en fait, les maladies du passé, et même un passé lointain, peuvent aujourd'hui nous affecter et créer de véritables épidémies, en fait.
Voilà, c'est ça. Ces agents infectieux ne sont que endormis, et ils peuvent toujours être soit réactivés, soit diffusés encore à distance. D'où l'intérêt vraiment d'une urgence de mener des études dans ce domaine, ce que font certains chercheurs comme Jean-Michel Clavery, par exemple, à Marseille, dans des laboratoires de pointe.
Alors, dans les recherches que vous faites, par exemple, dans votre livre, vous parlez de Lucie, qui a tué Lucie ou comment Lucie est morte. C'est une avancée de le savoir. Et en fait, ces maladies qu'ils peuvent avoir contractées, qui n'étaient effectivement pas connues à l'époque, aujourd'hui peuvent être identifiées. Et cela permet, est-ce que cela peut permettre d'avoir une avancée sur certaines maladies aujourd'hui, ou en tout cas de tenter d'en proscrire ou de les prévenir en tout cas?
Alors pour Lucie, non, puisque Lucie est morte vraisemblablement croquée par un crocodile, et peut-être ensuite prise dans une coulée de boue, et peut-être même avant était-elle tombée d'un arbre, donc c'est une mort pas très sereine.
Ça c'est à l'autopsie, en examinant les restes, qu'on a pu identifier ces choses-là.
Oui, c'est en examinant le squelette, tout à fait. Donc on peut plus trop parler d'autopsie, mais c'était vraiment des ossements qui sont totalement minéralisés, puisque ce sont des fossiles qui datent de plus d'un million d'années, en l'occurrence. Et sinon, sur des corps plus récents, comme celui de Cro-Magnon, par exemple, ou ceux de Saint-Louis ou autres, eh bien là, on a des agents infectieux qui sont directement visibles, et on se rend compte que eh bien, les agents infectieux du XIIIe siècle ou de, on va dire, 100 000 avant notre ère, par exemple, ne sont pas exactement les mêmes que maintenant. Ils portent le même nom, ils ont quelques caractéristiques comparables. Je vous prends un exemple n'importe lequel, c'est de la tuberculose ou c'est de la peste ou c'est de la grippe, mais ça n'a rien à voir avec la peste actuelle, la grippe actuelle ou la tuberculose actuelle. Les maladies évoluent au fur et à mesure du temps, elles peuvent devenir plus contagieuses, elles peuvent devenir moins délétères vis-à-vis de l'organisme ou au contraire plus délétères. Donc il y a vraiment une histoire naturelle des maladies que l'étude des restes humains nous permet de reconstituer.
Notre corps aussi, notre façon de vivre, de se nourrir, d'évoluer dans le temps, fait que certaines maladies ne peuvent plus nous atteindre aussi. Est-ce que, comment dirais-je, notre immunité aussi a changé?
Notre immunité a changé, elle a été énormément influencée par des avancées à la fois culturelles, sociologiques et aussi technologiques, le micro-ondes, le réfrigérateur, l'usage de la cuisson de la viande, les conservateurs, les antibiotiques, la vaccination. Tout ça joue énormément sur notre constitution intérieure, sur les modifications des aliments et du coup sur les maladies qu'on va développer. Donc on ne peut pas travailler sur les restes humains anciens sans travailler aussi sur des données qui sont historiques, qui sont sociales, qui sont anthropologiques.
D'accord. Alors effectivement, il y a le côté historique et social, c'est-à-dire que il y a des morts d'une certaine façon qui ne sont pas anodines. Si on prend l'exemple de Saint-Louis, pourquoi et comment finalement son corps a été un petit peu dispersé un peu partout dans le monde?
Alors, son corps, il a été dispersé parce qu'il a été fait saint à un certain moment et que c'est la tradition de disperser le corps des saints pour servir d'exemple dans de nombreuses églises ou autre chose. Mais son petit-fils en a également profité pour disperser le corps de son grand-père, Louis IX, devenu Saint-Louis, pour remercier des barons, remercier des personnalités importantes d'avoir servi à ses côtés. Donc, il a été en effet éparpillé un peu façon puzzle, un peu partout à la surface de la France d'abord, puis de l'Europe, et ensuite de toute la Terre.
Mais de cette façon, est-ce qu'on a pu quand même savoir de quoi il était mort?
Alors oui, on a continué à travailler sur des fragments corporels de Saint-Louis. On a reconstitué un tout petit peu le puzzle. La mandibule qui montrait des signes de scorbut, les intestins qui ont été momifiés en partie, sur lesquels on a identifié quelques bactéries pouvant être la cause de la mort. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas mort d'une peste, comme on le lit encore dans quelques livres d'histoire. Il est mort d'une pestilence, c'est-à-dire une maladie infectieuse, mais en tout cas absolument pas la peste.
D'accord. Alors, je suppose aussi que ces recherches permettent parfois de lever certains lieux-dits ou idées reçues. On pense que certains grands personnages sont morts de telle et telle façon, de telle et telle maladie. Et c'est une enquête policière, ça permet de rétablir aussi une certaine vérité dans l'histoire qui ne doit pas forcément être toujours facile à accepter si on contrecarre l'histoire telle qu'elle a été dite et racontée depuis des siècles.
Oui, c'était le cas par exemple avec Saint-Louis, on vient de le dire, avec la peste, mais également avec les restes de Adolf Hitler, pour lesquels il y avait des théories complètement fumeuses et abracadabrantesques, disant qu'il s'était enfui, qu'il avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mm-hmm. On s'est rendu compte, en allant directement sur place à Moscou, étudier les restes qui avaient été exhumés à Berlin en 1945 par les soviétiques, que c'était bien le corps de Adolf Hitler, et surtout c'était bien le corps dans son état de 1945. Donc il n'a pas survécu pendant 20 ans dans un goulag, comme le disaient certains. Oui. Il ne s'est pas enfui dans un sous-marin vers l'Uruguay, le Paraguay ou le Brésil. Il n'est pas caché dans une base secrète en Antarctique ou sur une base cachée de la Lune. Oui. Voilà, toutes les théories complètement... de science-fiction, littéralement. Voilà, notre étude a bien montré qu'il est bien mort, d'abord, et qu'il est bien mort en 1945, et qu'il est bien mort d'une association cyanure et probablement tir par projectile à balle d'arme à feu dans le crâne.
Dans le crâne. Donc, la thèse du suicide est tout à fait avérée.
Elle est totalement compatible.
Totalement compatible. Compatible est plus juste qu'avéré, c'est ça, en fait.
C'est ça, exactement.
Est-ce que, malgré tout, sur certains restes, on peut... Justement, j'ai employé le mot avéré, vous avez dit compatible. Est-ce que, malgré tout, il est facile, parfois, d'affirmer les choses en disant, voilà, c'est avéré, c'est une certitude, ce personnage est mort de cette façon?
Oui, quand on a des causes de mort infectieuses, quand on a des projectiles, quand on a des, quand on est sûr et certain d'abord de l'identité et ensuite qu'on a un bon processus de mort qui est visible et diagnosticable à l'autopsie ou à l'examen des restes, des viscères ou des ossements, c'est totalement faisable. Mm-hmm. Par exemple, pour Diane de Poitiers, on avait une intoxication chronique en or. Pour Agnès Sorel, qui n'est pas très loin de la région où vous êtes, on avait également une cause de mort avec une intoxication aiguë en mercure, qui pouvait être d'origine diverse, mais un suicide, un accident, un homicide. Mais en tout cas, la cause de mort en elle-même, c'est le mercure.
Alors, est-ce qu'en fonction, je me suis aperçue dans votre livre, qu'en fonction des époques, que ce soit Cro-Magnon, et puis on passe au siècle suivant, on constate que les morts d'origine dite naturelle sont identiques, c'est-à-dire les mêmes infections, les mêmes bactéries, les mêmes virus, et que d'un siècle à l'autre ça se propage, ou chaque siècle, chaque époque a ses infections et ses façons de mourir naturelles, identiques?
Il y a des grandes phases, il y a des phases d'évolution de processus de mort, des morts d'origine toxique, des morts d'origine infectieuse. Il y a des sortes de grandes vagues, en fait, avec des changements. Et ces vagues sont notamment influencées par deux choses, soit les épidémies, bien entendu, la peste, par exemple, le choléra ou autre chose, par les guerres aussi, et par les avancées technologiques qui vont à chaque fois modifier notre organisme et la façon avec laquelle notre organisme est colonisé. Donc, oui, il n'y a pas de linéarité, c'est pas homogène.
C'est
il y a vraiment
homogène,
des modifications, des grandes vagues, des grands changements qui se font.
Et puis, je suppose aussi que la façon de vivre, la nourriture, l'hygiène a forcément des conséquences sur la santé humaine au travers de l'histoire aussi.
Oui, l'hygiène, la façon de se vêtir aussi, la façon de se prémunir des maladies, la densité de population aussi, la façon de construire les habitations, même le type d'imposition, l'impôt sur les murs et les fenêtres a été fait, eh bien beaucoup de fenêtres ont été murées, et ce qui a considérablement facilité le développement de la tuberculose par un manque de ventilation des habitations. Donc vous voyez, même des choses aussi anodines que celles-ci ont de fâcheuses conséquences sur la santé.
Tout à fait. Eh bien écoutez, j'espère que cette pause musicale n'aura pas de fâcheuses conséquences sur notre santé, bien au contraire, et nous nous retrouvons tout de suite après.
Thank you.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous avec Philippe Charlier pour son livre Autopsie des morts célèbres aux éditions Thaïlandais. Alors, je suppose aussi que toutes ces recherches sur ces morts célèbres, il y a plusieurs années, des siècles, ont créé de nouvelles technologies, de nouveaux métiers, même pourrait-on dire.
Oui, on utilise beaucoup de nouvelles infrastructures, de nouveaux développements technologiques au service de la connaissance de ces maladies du passé, oui. Qu'il s'agisse du scanner, qu'il s'agisse de la reconstruction faciale, qu'il s'agisse de la génétique, bien entendu, des techniques de dosage toxicologique, tout ça est vraiment utilisé au maximum pour améliorer les connaissances. Dites-vous bien que c'est un processus qui est assez ancien. Quand la radiographie a été inventée, et bien 6 mois après, on est quand même à la fin du 19e siècle, oui. Tout début du 20e, et bien la... 6 mois après, la première momie égyptienne était déjà passée sous les rayons X, et ça, sur l'impulsion des proches de Röntgen. Mmh. Donc, on est, je dirais pas opportuniste, parce que ça serait négatif, mais on sait saisir les opportunités des avancées technologiques. Mmh. Pas plus tard que la semaine dernière, on a fait venir au musée du Quai Branly, à Paris, un scanner pour examiner directement in situ, donc dans les salles d'exposition et dans les réserves, des objets d'art premier. Donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant dans aucun musée du monde.
Alors justement, vous parliez de la momification. Vous avez eu, je suppose, l'occasion d'examiner des momies, cet embaumage qui conserve bien le corps. On pense bien sûr à Ramsès II. Est-ce que c'était des techniques aux pointes, mais qui permettent malgré tout de savoir comment sont morts ces humains momifiés?
Oui, alors embaumement, on dit, cette technique, elle était extrêmement développée et elle marchait très bien. L'environnement en lui-même était déjà favorisant. Un environnement qui est désertique, qui est sec et qui empêche toute décomposition, putréfaction dans de telles conditions. Il y a des embaumements dans beaucoup de civilisations, on se rend compte. Beaucoup de corps étaient embaumés également en Occident, étaient embaumés en Asie, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, également en Amérique centrale ou du Sud. Donc les embaumements sont vraiment un processus qui est universel, cette façon de préserver l'état du corps le plus intègre possible en post-mortem. Parfois c'est naturel, parfois c'est artificiel, parfois c'est mixte. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une grande intelligence de l'homme pour conserver le corps du défunt.
D'accord. Et donc c'est une technique, comment dirais-je, presque moderne, enfin très 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 en avant-gardiste.
Alors, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Oui, c'est pas forcément une technique avant-gardiste, puisqu'il s'agissait dans l'antiquité égyptienne, par exemple, d'ouvrir le corps du côté gauche, de vider par la narine gauche le cerveau et de remplir l'intérieur avec des aromates ou du bitume, sans aucune connaissance anatomique précise, ce qui est quand même assez ahurissant. Oui. En revanche, actuellement, on n'ouvre plus, on ne retire plus rien, sauf le sang et quelques liquides, mais en revanche, on injecte à l'intérieur du savon ou du formol ou des précipités de conservation. Donc la technique a considérablement évolué, principalement sur l'impulsion des chimistes au 19e siècle, des apothicaires, maintenant les pharmaciens, et des chimistes. Donc d'accord. Là, il y a toujours une évolution et il y a même des avancées de recherche maintenant autour de l'embaumement pour faire des embaumements encore plus performants.
Alors dans tout ce que vous avez pu observer, chercher, découvrir, quel est le mort célèbre, dirais-je, sur lequel vous avez travaillé, qui vous a fasciné, sur lequel vous avez découvert des choses qui vous ont étonné?
J'espère qu'on a découvert des choses sur plus d'une personne.
Oui, plus d'une personne. Vous étonner, quelque chose qui est prédominant dans votre recherche.
Bien sûr, rassurez-vous, je vous comprends. Oui. En fait, chaque cas est différent et je n'ai pas de cas préféré ou de patient préféré. Déjà, en tant que médecin, je m'interdis ce genre de choix.
Donc, qui a créé l'étonnement en tout cas, voilà.
Je me souviens que quand on a utilisé des nez de parfumeurs pour travailler sur les reliques dites de Jeanne d'Arc, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des reliques de Jeanne d'Arc, mais que c'était des fragments de momies égyptiennes humaines et de momies de chats. Là, l'étonnement était grand, était réel.
J'imagine.
Mais vous savez, on évite d'être trop étonné ou d'être trop sujet à nos émotions parce qu'on doit une vérité scientifique, une froideur scientifique, et ce détachement est nécessaire pour être totalement objectif. Donc c'est une fois que le dossier est complètement refermé et que je lis les histoires qui sont dans ce livre-là et que je les lis à mes grands-enfants pour les endormir, par exemple, je devrais pas dire ça, mais disons qu'au bout de la cinquième histoire, ils finissent quand même par s'endormir. Là, je me rends compte que oui, que c'est quelque chose qui est assez intéressant et que c'est une façon très vivante d'aborder l'histoire de France oui. que de l'aborder par les morts.
Oui, mais au-delà de cette impartialité, de ce côté sang-froid qu'il faut garder, malgré tout, de toucher au reste de quelqu'un qui a fait notre histoire, ce doit être malgré tout quand même émouvant, parce qu'on touche du doigt l'histoire, quelque chose
peut-être
qui...
pour vous, mais honnêtement oui. pas pour moi. D'accord. Non, c'est comme, vous savez, c'est un patient, hein, c'est un patient
oui.
comme un autre,
oui,
donc qu'il
oui.
s'agisse d'un ossement, d'une momie ou autre chose, oui. je vais pas entrer en pâmoison en me disant oh, mon Dieu, c'est la tête d'Henri IV, ou
oui,
oh, mon
oui.
Dieu, c'est l'ossement
comprends.
De, je sais pas, c'est la mandibule de Ludovic Sforza. Non, je vais, non, ce genre de choses-là, non. Non, c'est, on s'interdit vraiment ce genre de choses parce que ça n'est pas professionnel.
Oui.
Maintenant, reposez-moi la question dans 20 ans, j'aurais peut-être changé d'avis.
Mais écoutez, je note, je prends rendez-vous dans 20 ans. Au-delà de ça, est-ce que c'est quotidien, enfin, je veux dire, ces recherches, est-ce qu'il y a un tableau, est-ce qu'il y a une ligne de conduite en disant, ben voilà, on va travailler sur tel corps, sur tel reste, comment ça se passe?
Alors maintenant, je travaille dans un musée, le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Oui. Donc maintenant, mes patients sont principalement des fétiches, des objets de musée, mm-hmm. Des robes, des statues, des objets magiques. Donc il y a un programme, oui, d'études de ces différents restes qui se fait en collaboration avec des ethnologues, des anthropologues, des historiens de l'art.
Mm-hmm.
Donc on a un programme de recherche hebdomadaire à chaque fois, avec des objets à sortir, à étudier, à analyser. C'est comme ça que ça se passe. Et puis quelques cas historiques à clôturer encore, ou d'autres qui nous sont proposés et pour lesquels on voit si on peut travailler dans le cadre de conventions avec le musée du Quai Branly. Donc oui, les propositions s'enchaînent les unes avec les autres, les études s'enchaînent également les unes avec les autres et on aura vraisemblablement matière à écrire encore un troisième tome de cette histoire éclairée par la science ou avec laquelle la science collabore très bien. Voilà, il y a beaucoup de corps encore qui méritent, si on peut dire, qu'on s'intéresse à eux pour les faire parler.
Il y en a, alors vous allez me dire encore que moi je vois ça de mon côté, on va dire, romanesque. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez bien travailler, comprendre, chercher?
Vous me proposeriez de travailler sur la momie de Saint-Marc qui est à Venise. je ne cracherais pas dessus, non seulement parce que c'est Venise,
oui.
mais en plus parce que c'est un... Ce sont des restes momifiés, donc
oui.
du coup qu'on peut faire beaucoup plus parler qu'un simple squelette ou qu'un simple fragment osseux dans un reliquaire. Donc oui, ça serait des restes assez intéressants.
Mm-hmm.
Donc si vous avez le contact de l'archevêque de Venise...
Eh bien écoutez, je vais m'enquérir de la chose et je vous ferai signe éventuellement. Et sinon, bien avant, c'est-à-dire à l'époque de Cro-Magnon ou de Lucie, est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir en la matière? Comment ça
oui,
se passe?
Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et on collabore beaucoup avec les paléontologues, donc les spécialistes des fossiles humains en l'occurrence, ou préhumains, parce qu'il est assez difficile parfois de faire la différence entre quelque chose de pathologique et quelque chose qui est une nouvelle espèce. Vous voyez avec l'espèce de Flores par exemple, cette espèce d'homme nain qui a été retrouvée dans une île indonésienne.
Oui, tout à fait.
Au début, il était suspecté que c'était une espèce classique, mais malade, et finalement il a bien été montré que c'était une espèce... totalement différente et qui n'était pas particulièrement pathologique. Donc oui, faut bien imaginer que l'arrivée de l'espèce humaine moderne s'est faite par un buisson ardent, si on peut dire, avec de nombreuses branches dont beaucoup ont brûlé et ont périclité et n'ont pas donné de fruits jusqu'à présent. Et donc il y a plein d'espèces différentes qui sont identifiées. Quasiment chaque année, il y a une nouvelle espèce, pour en dire plus. Et à chaque fois, il faut se poser la question de est-ce que c'est vraiment une nouvelle espèce ou est-ce que c'est pas une espèce déjà décrite, mais avec un sujet pathologique.
Oui.
Donc oui, la médecine a vraiment sa place, y compris pour des préhumains extrêmement anciens.
Oui. Est-ce que vous me parliez, parce que moi justement je repense à ce documentaire que certainement bon nombre de nos auditrices, auditeurs ont vu, découvert dans une grotte, alors, je ne sais plus si c'était en Indonésie justement, tout un groupe d'hommes et de femmes, fait des restes de groupes d'hommes et de petite taille. Avec
oui, c'est
une
l'homme de Flores dont je
voilà,
viens
c'est
de
ça,
parler.
C'est celui-là, d'accord,
dont
vous parliez. Okay. Alors dans vos prochains travaux, alors donc là, autopsie des morts célèbres, hein, j'enjoins à chacun de le lire parce qu'on y découvre moult. C'est de l'histoire en fait, hein, c'est de la médecine historique, moi j'ai envie de dire. Dans le présent, vous disiez, c'est une avancée aussi, ça permet aussi de comprendre des choses. Est-ce qu'il y a encore des choses que l'on ne sait pas, bien évidemment, mais dont vous soupçonnez peut-être la découverte, vous savez, une sorte d'intime conviction par rapport à une recherche, par rapport à une attente.
Pas particulièrement, vous savez, non, il n'y a pas de cold case ou de patient pour lequel il y a une grosse énigme historique ou policière à résoudre ou autre chose. Mm. Enfin, voilà, on ne va pas exhumer Kennedy pour savoir les circonstances exactes de sa mort ou Trotsky ou je sais pas ou Che Guevara.
Non, c'est pas.
Là, dans l'état actuel, je ne pense pas à quelqu'un en particulier. Puis, je veux vous dire que mes patients, en ce moment, ils viennent surtout d'Océanie, d'Afrique subsaharienne ou du monde afro-caribéen. Et généralement, ils sont en bois ou en vannerie. Il n'y a pas de cold case particulier qui se fait rattacher.
Non, les objets aussi nous apprennent des choses sur l'histoire, sur les civilisations, sur leur façon de vivre. Ça doit être aussi passionnant parce que au-delà de la santé, c'est aussi leur vie, leur mode de vie. Est-ce que aussi ça nous en apprend aussi sur nous?
Oui, ça nous en apprend sur nous, sur nos rituels, et on se rend compte qu'en étudiant certaines populations anciennes pour lesquelles les rituels sont assez visibles, on se rend compte qu'on reproduit nous-mêmes les mêmes rituels de façon un petit peu homéopathique, si je peux dire, c'est-à-dire totalement digéré et quasiment sans plus du tout de principe actif. Par exemple, le fait de clouer le mort, non pas avec deux clous dans son cercueil, mais avec au moins huit, est quand même un signe assez particulier du fait qu'on veut l'enfermer là et qu'on ne veut pas qu'il ressorte, le fait de mettre un signe religieux dessus, le fait de le mettre en terre, de lui donner des offrandes ou autre, c'est vraiment, voilà, c'est une façon de montrer le deuil et surtout de montrer que le mort est dans sa fosse, dans sa caisse, et qu'on ne veut pas qu'il en ressorte. Voilà, ce qu'on appelle la nécrophobie, c'est la peur du retour des morts. Et le fait que les cimetières dans les campagnes françaises, comme je le vois assez souvent, sont hors du village, il faut sortir, passer deux ou trois champs, et ensuite, sur le bord de la route, il y a le cimetière, qui est donc loin du monde des vivants, et qui en plus est clos de murs, avec une porte qui ferme à clé, des hauts murs. Donc voilà, il y a vraiment l'enfermement des morts à distance des vivants est un rituel et un ensemble de rituels qu'on voit dans les populations anciennes et qu'on reproduit dans les populations occidentales sans y faire attention particulièrement. Donc oui, les morts enseignent beaucoup aux vivants.
Alors une dernière question, est-ce qu'il est facile d'approcher les reliques sacrées qu'il y a dans les cathédrales, dans les églises pour pouvoir les examiner, les reliques de saints?
Oh oui, il y a une ouverture totale et complète de la part du clergé qui accepte avec une réelle bienveillance les études scientifiques ou les propositions d'études et qui lui-même nous sollicite beaucoup. Mm-hmm. On travaille par exemple avec l'évêché de Fréjus-Toulon sur un inventaire complet de reliques. On travaille également à Sens sur un inventaire de reliques. Mm-hmm. Donc c'est à la demande de ces évêchés, notamment des archivistes. Mm-hmm. Et puis quand j'avais travaillé sur les restes d'Agnès Sorel et qu'on l'avait exhumé, c'était Monseigneur 23 à l'époque qui était en charge de ce secteur et il avait été d'une totale ouverture d'esprit. Mm-hmm. Pareil, quand on avait travaillé sur les reliques de Jeanne d'Arc, conservées à Chinon, il y avait à la fois une réelle curiosité, mais aussi une bienveillance complète. Mm-hmm. Donc écoutez, le soi-disant obscurantisme de l'Église avec sa défiance de la science, je ne l'ai jamais vu.
Eh bien écoutez, on va dire tant mieux, n'est-ce pas?
Tant mieux, et c'est une très bonne chose, je peux vous dire que ça ne m'étonne pas.
Oui, bon, bah, écoutez, tant mieux aussi alors. Rapidement, vous avez encore de prochains projets d'écriture sur ces sujets?
Oui, deux livres à paraître bientôt. Un autour d'une analyse anthropologique et médicale de rituels tout autour du monde.
Oui.
Et puis un autre ouvrage autour du vaudou qui paraîtra bientôt chez Terre Humaine.
Terre Humaine, d'accord. Le premier, ce sera également chez Talendier, le second chez Terre Humaine, c'est ça?
Ah, vous verrez, pour le premier, ça sera une petite surprise.
Bon,
voilà,
c'est
un livre illustré, donc ça sera un petit peu différent. Vous verrez, on en parlera.
J'espère. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Autopsie des morts célèbres aux éditions Talendier. C'était Philippe Charrier. Je vous remercie infiniment, c'était passionnant et intéressant. Et puis, donc, je vous dis à une prochaine fois pour vos nouveaux ouvrages.
À bientôt, merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.